J'ai à cœur de parler sur un passage dans Genèse chapitre 26 avec la conviction de c'était le passage pour aujourd'hui. Après coup, je me suis rendu compte que c'était très adapté aussi pour des gens qui se font baptiser. Mais c'est bien sûr adapté aussi pour tous ceux qui se sont engagés avec le Seigneur déjà. C'est aussi adapté bien sûr pour ceux qui ne sont pas encore donnés au Seigneur. Mais vous savez que si vous n'avez pas encore donné clairement votre vie au Seigneur, eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui de le faire. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors j'aimerais que vous puissiez tourner dans Genèse chapitre 26. C'est un récit qui concerne Isaac et une histoire que vous connaissez vraisemblablement bien. On va voir plusieurs aspects de ce qui s'est passé historiquement, donc des faits concrets, mais qui ont à mon avis un message spirituel très clair. Et c'est sur le message spirituel que je voudrais insister lourdement. On voit dans le chapitre qu'au début, donc il se trouve Isaac et Rebecca, sa femme, se trouve en Égypte. Elle se trouve, pardon, chez les Philistins, pardon. Pourquoi ils se trouvent chez les Philistins? Ça paraît surprenant, parce que les Philistins, c'était les futurs ennemis, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Eh bien, ce n'était pas par désobéissance que Isaac et Rebecca se sont trouvés chez les Philistins. C'est parce que Dieu leur a dit de s'installer là, momentanément, à cause de la famine. Ils n'ont pas désobéi. Dieu leur a dit, n'allez pas en Égypte. Mais ils se sont installés chez les Philistins avec l'accord de Dieu. Mais ce que l'on va voir ici, ce matin, c'est que parce qu'ils étaient chez les Philistins, qui quand même, dans leur cœur, avaient déjà la semence de l'inimitié contre le peuple de Dieu, eh bien, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et ce que j'aimerais faire comme parallèle, c'est celui de leur situation, le parallèle entre leur situation et notre situation potentielle dans le monde. Parce que nous sommes aussi dans un monde qui est ennemi de Dieu, qui est ennemi du peuple de Dieu. Et on va voir que ce que ils ont connu chez les Philistins, eh bien, nous pouvons le connaître aussi dans la vie de tous les jours en tant que chrétien. Et Isaac, c'est l'enfant de la promesse. C'est celui qui représente le mieux Jésus-Christ. C'est celui qui a été presque sacrifié sur le mont Morija. C'est celui qui avait une épouse unique, qui était Rebecca. Et c'était important, Dieu n'a pas permis qu'il ait une autre épouse, parce qu'il symbolisait Jésus-Christ qui se réunit à sa seule épouse qui est l'Église. Et voilà que ce couple uni, qui s'aime, se trouve chez Abimélec, dans le royaume d'Abimélec, chez les Philistins. Et il y a danger. Mais il y a cette unité extraordinaire entre l'un et l'autre qui donne la sécurité à Rebecca d'une manière remarquable. Parce qu'elle savait qu'Isaac était là, parce qu'elle savait qu'elle était unie à lui. Mais Isaac lui avait dit, « Lorsque je suis avec toi dans les pays étrangers, tu diras que tu es ma sœur. » Alors pourquoi il a fait ça? Bien sûr, il a menti. Mais pourquoi il a fait ça? Je ne veux pas du tout justifier, parce que Dieu ne voulait pas qu'il mente. Mais c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas sauver son épouse. Parce que le sacrifice qu'il avait accepté de faire, comme l'a rappelé Michaël il y a quelques semaines, ce n'est pas seulement Abraham qui a accepté d'aller seulement Morija pour sacrifier son fils Isaac. Mais c'est Isaac lui-même qui a accepté, qui s'est soumis, qui s'est laissé faire. Mais le sacrifice d'Isaac aurait été inutile. C'est pour ça que Dieu l'a arrêté la main d'Abraham. Parce que qu'est-ce que serait accompli? La mort d'Isaac ne pouvait pas sauver qui que ce soit. Et parce que ce sacrifice ne pouvait pas se faire en Isaac, eh bien, Isaac ne pouvait pas sauver sa femme. Il savait très bien que chez les Philistins, ils allaient convoiter sa femme. Et il a dit quelque chose de terrible. Quand il a expliqué au roi des Philistins, il a expliqué pourquoi il avait menti. Il a dit « Je ne voulais pas mourir à cause d'elle ». Et je pense, j'imagine, n'est-ce pas, que quand il a dit ça, dans le ciel, Jésus-Christ s'est levé et il a dit à son Père, « Moi, je vais mourir à cause de l'Église. Moi, je suis prêt à mourir. » Mais Isaac savait qu'il ne pouvait pas mourir pour sauver sa femme. Parce que s'il mourait, si les Philistins le tuaient, eh bien sa femme serait mariée au roi des Philistins. Elle deviendrait donc philistine et sa descendance deviendrait les ennemis de Dieu. Il espérait donc qu'en restant vivant, si on prenait sa femme, croyant que c'était sa sœur, eh bien il pourrait ensuite peut-être délivrer et se sauver pendant la nuit avec sa femme. Mais sa mort était inutile dans l'affaire pour pouvoir sauver Rebecca, et il le savait. Évidemment, ici, il y a le parallélisme avec Jésus-Christ. Mais je voudrais quand même toucher à une situation concrète de nos vies. Peut-être vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Il y a donc eu cette alliance avec le nouvel Isaac, le Isaac de la nouvelle alliance, celui qui est Jésus-Christ lui-même. Et vous êtes allié avec lui, mais vous êtes dans le monde. Et le monde a les yeux sur vous, n'est-ce pas? Comme ici, en Guérard, chez les Philistins, eh bien, le roi des Philistins et les Philistins avaient les yeux sur cette femme. Parce qu'ils la voulaient pour eux. Eh bien, c'est la même chose. Le monde a les yeux sur vous parce qu'il vous le veut. Parce qu'il veut être allié avec vous. Il veut que vous alliez avec le monde. Mais quelle est la réponse que vous allez dire au monde? Est-ce que vous allez dire, Jésus, c'est mon frère. Je le connais, c'est mon frère. Je suis enfant de Dieu, donc c'est mon frère parce qu'il est enfant de Dieu. Ou est-ce que vous allez pouvoir dire, non, je suis marié avec Christ. Donc je n'ai rien à faire avec le monde. C'est une alliance qui va se produire un peu plus tard. Et le titre que j'aurais donné à mon message, c'est l'alliance de Guérard et l'alliance de Beersheba. On va voir ces deux types d'alliances. Mais en tout cas, pour ce qui est de Guérard dans le pays des Philistins, eh bien, Rebecca dit « c'est mon frère, ce n'est pas mon mari, c'est mon frère ». Et combien on est comme ça, n'est-ce pas? On n'est pas clair. On est ambigu dans cette alliance avec Jésus-Christ. Combien moi, en premier, lorsqu'on va parler de Dieu à quelqu'un, on va parler de Dieu, parce qu'on dit que ça passe mieux. On ne va pas dire, voilà, c'est Jésus-Christ qui a changé ma vie. Et ceux qui peuvent le dire avec force et puissance sont des gens qui sont travaillés, qui ont été touchés par le Saint-Esprit, qui peuvent confesser le nom de Jésus-Christ. Et comme avait dit Alex dans une étude biblique, il y a quelque temps, il a dit, si vous écoutez sur YouTube le témoignage de certains musulmans, eh bien on peut le faire passer dans les milieux évangéliques. C'est terrible. Mais ils vont dire, c'est Dieu, je me suis donné à Dieu, Dieu s'est révélé à moi, et ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Dieu. Exactement le témoignage de beaucoup d'évangéliques. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas confesser le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui lie leur bouche et vont dire Dieu. Mais soyons libérés ce matin et qu'on puisse dire, voilà, ouvertement, déclarer publiquement que l'on est marié à Jésus-Christ, qu'il y a une alliance qui fait que vous n'avez pas le droit de me toucher. Le monde n'a aucune emprise sur vous à partir du moment où vous déclarez clairement que vous êtes à Jésus-Christ et que vous êtes allié à Jésus-Christ par cette alliance du mariage, par cette alliance éternelle. Le monde ne peut plus vous toucher. Les Philistins ont dit ça quand ils ont vu qu'elle était mariée avec Isaac. Ils ont dit on ne peut pas la toucher, on a failli la toucher parce qu'on a cru qu'elle n'était pas mariée avec Jésus. Et j'aimerais savoir si le monde sait que vous êtes mariée avec Jésus. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit dans votre comportement? Ou est-ce que dans votre comportement, n'est-ce pas, il y a tout qui laisse penser que vous êtes célibataire? Et le monde alors va vous sauter dessus, va vous convoiter pour établir une alliance. Mais est-ce que dans votre vie de tous les jours, il y a la manifestation de votre alliance à Jésus-Christ? Et que même verbalement, si vous ne le dites pas, ça se voit. N'est-ce pas, quand on voit un homme et une femme assis dans un lieu public, l'un à côté de l'autre, le bras de l'un autour de l'autre, on se dit, il y a une alliance. Mais quand on voit des gens qui ne se parlent pas, eh bien, on peut douter de l'alliance. Et j'aimerais savoir si cette alliance, elle est bien établie, elle est claire. Et ici, il y avait de l'ambiguïté. Étrangement, Abraham avait connu exactement la même situation avec Sarah. Exactement, au même endroit, chez les Philistins, le même nom du roi des Philistins. Donc, était-ce le même ou était-ce son père et le fils portaient le même nom? Je ne sais pas. La même situation. Il avait dit à Sarah, tu diras, je suis sa sœur. Et Abraham a dit à Abimélec, le roi des Philistins, il a dit, mais c'est vrai que c'est ma sœur. Parce que c'est la fille de mon père, mais ce n'est pas la fille de ma mère. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ a dit de la fille de son père. Il a dit, c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est l'Église, qui est la fille de son père, mais qui est aussi son épouse. Et il ne va pas dire, c'est ma sœur, il va dire, c'est ma femme, c'est mon épouse. Du côté de Jésus-Christ, l'alliance, elle est claire. L'alliance, c'est la vérité. Elle n'est pas basée sur l'ambiguïté, sur le mensonge. Mais Jésus-Christ va confesser dans le ciel qu'il est allié avec vous. Si clairement sur la terre, vous menez une vie qui manifeste que vous êtes marié avec Christ. Et donc, ici, c'est la première étape. Une étape ambiguë, une alliance ambiguë, n'est-ce pas? Une alliance qui était si forte dans le cœur. J'imagine que Isaac a dit à Rebecca, « Mais oui, tu es ma femme, tu sais bien qu'on est attaché pour la vie et pour la mort. » Mais dis-lui que tu es ma sœur. Une étape, quelque chose qui manque ici. Alors l'histoire continue, vous lirez chez vous le chapitre 26. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et c'est ça qui doit se passer dans vos vies spirituelles, dans nos vies spirituelles à chacun. Isaac a commencé à prospérer. La prospérité dans l'Ancien Testament était souvent matérielle. Elle ne l'est plus dans le Nouveau Testament. L'évangile de la prospérité est un évangile mensonger. C'est un évangile diabolique. Ceux qui disent que les chrétiens doivent être riches, doivent avoir la santé, doivent avoir la réussite, doivent atteindre les postes les plus élevés, c'est un évangile de mensonge. Parce que si c'était vrai que c'était ça l'Évangile, alors Jésus-Christ était le contre-exemple de l'Évangile. Parce qu'il était né dans une étable, il était pauvre, il a été maltraité, il a, semble-t-il, sur la terre, il n'a pas réussi. Mais la prospérité dans l'Ancien Testament était un signe de bénédiction. La prospérité matérielle était souvent le signe de la bénédiction de Dieu. Et Dieu a béni Isaac. Et vous lirez dans le à partir du verset 12 et les quelques versets qui suivent, parce qu'il commençait à prospérer, eh bien, les Philistins ont commencé à se sentir mal à l'aise à son égard. Ils ont commencé à le détester. Et le roi a dit, écoute Isaac, maintenant tu vas partir. Pars, parce que tu es trop dangereux pour nous. Voilà le processus exact qui doit se passer dans nos vies. C'est que le monde nous dise, pars, on ne veut plus de toi, tu dois sortir. Il y a des gens qui disent, voilà, parce que je suis chrétien, il faut que je fasse tous mes efforts pour sortir du monde. Mais quand il y a la vie de l'Esprit, quand il y a cette alliance avec Jésus-Christ, eh bien c'est le monde qui nous éjecte aussi. Il y a quelque chose qui fait que c'est incompatible. Est-ce que votre vie, est-ce que l'Esprit que vous avez reçu en vous et qui vous anime jour après jour est un esprit qui est incompatible avec l'esprit du monde? Dans ce cas-là, cet esprit du monde va vous chasser. Et vous serez libre. Si le Christ vous a franchi par cette alliance avec lui, qui devient non ambiguë, qui devient déclaré « oui, c'est mon époux », eh bien, cette alliance vous donnera la liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous aurez cette liberté de dire « je peux quitter le monde ». Or, le monde n'était pas méchant avec moi. Vous lisez le récit. Et le roi Abimélec a dit à Isaac, on t'a bien traité, on t'a pas jamais fait de mal. Et quelquefois on présente dans les milieux chrétiens le monde comme étant méchant et faisant du mal, mais non. Le monde vous attire par ses plaisirs en disant je vais vous faire du bien. Le monde vous promet des choses glorieuses, des choses sensationnelles. Mais à un moment donné, si vous avez reçu le Saint-Esprit, le monde doit vous dire non, pars, pars, tu es trop pour nous. Vous lirez Hébreux 11, ce chapitre sur la foi, et il y a un verset qui est bouleversant à la fin. Quand il est décrit une liste de héros de la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « eux dont le monde n'était pas digne ». Est-ce que ce matin, il peut dire ça de vous? Est-ce qu'il peut vous regarder et dire « le monde n'est pas digne de cet homme, de cette femme » Et donc, il y a expulsion de la part du monde. Mais voilà que le monde va quand même essayer de détruire. Et vous continuerez à lire le chapitre 26. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dit, parce que Isaac construisait des puits comme Abraham son père, comme Jacob son fils. Vous savez que Jacob construisait des puits aussi. On le lit dans Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, qui dit à Jésus, ce puits que nous a donné notre père Jacob. C'était une famille de constructeurs de puits, extraordinaire, à la main. Maintenant, c'est des grosses entreprises qui viennent avec des grosses machines pour construire les puits. Ils en ont construit des quantités extraordinaires. Et voilà un récit extraordinaire qui est juste à la suite de ce que je viens de dire. C'est que Isaac et ses serviteurs, et Isaac et Rebecca et ses serviteurs, se désaltéraient à des puits qu'avait creusés Abraham. Et les Philistins sont venus et ils ont mis de la poussière dans ces puits. Ils sont venus pour couvrir ces puits de poussière pour que l'eau soit imbuvable. Voilà ce que fait le monde. Voilà ce qu'essaye de faire le monde. c'est de mettre de la poussière, c'est de mettre de la terre, c'est de gâcher tout ce que vos pères spirituels vous ont creusé chez vous. Vous aviez de l'eau vive, vous aviez des choses qui pouvaient vous désaltérer, qui venaient de Dieu, et le monde est venu à jeter la poussière dedans, à jeter de la boue pour que vous puissiez mourir. Et après dire, on ne vous a pas fait du mal, on vous a bien traité. Toute l'éducation, tout le système social, tous les fondements de notre société sont là pour détruire, pour mettre de la boue sur ce qui a été enseigné comme moralité aux enfants. Et quelquefois, on a l'impression qu'on établit des bases de la morale, de l'éducation chrétienne. Pendant des années, n'est-ce pas, on a creusé ces puits pour que nos enfants aient de l'eau à boire et le monde va venir et en quelques instants va jeter de la boue et c'est imbuvable. C'est ça que veut le monde. Mais ici, Isaac savait ce qu'il devait faire. Il a creusé des puits pour avoir de l'eau par ailleurs. Il a creusé autre part des puits. C'est le premier type de puits qu'il a creusé. Il leur a donné le nom qu'avait donné Abraham. Il a gardé le même nom à ces puits. On ne sait pas quel nom c'était. Ça ne nous est pas dit, mais il leur a donné le même nom qu'avait donné Abraham à ses puits. Et si vous avez l'impression que ce que vous avez reçu un jour de la part du Seigneur a été sali par le monde, s'il y a quelque chose qui a gâché l'expérience première, Jésus vous a rencontré un jour, vous a donné des choses et à cause du monde, à cause du fait que vous avez séjourné dans le monde, tout est gâché. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire, alors il faut que je retourne dans le monde? Ou est-ce que vous allez vous mettre à creuser et à dire, je vais recommencer, je veux de l'eau pure? Ce matin, c'est ça qu'il faut faire. Ce matin, c'est cet engagement de dire, voilà, je vais me mettre au travail et je vais creuser des puits pour pouvoir avoir cette eau pure. Je veux cette eau. Comme la Samaritaine qui a dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Est-ce que c'est la prière que vous faites ce matin? Seigneur Jésus, donne-moi cette eau, je vais faire tout. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il va creuser des puits pour avoir l'eau. Creuser la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a reçu l'Esprit de Dieu si on ne lit pas la Bible, si on sait lire. On ne peut pas. Et pourtant, il y a tant de gens dans les églises qui se déclarent chrétiens et qui ne lisent pas la Bible. Ça veut dire que toute l'eau que vous avez reçue dans l'église ou par ailleurs, qui vous a été donnée, le monde a essayé de la salir et vous n'avez pas creusé pour avoir de l'eau pure tous les jours. C'est ça qui fait que Isaac était béni. C'est qu'il avait des serviteurs qui savaient creuser et lui-même savait creuser pour avoir de l'eau pure. Il a creusé ses puits. Ensuite, il nous est dit qu'il est allé un peu plus loin. Parce qu'il a vu qu'il y avait cette eau, n'est-ce pas, qui avait été souillée, il est allé plus loin. Dieu vous demande ce matin de vous éloigner du monde encore davantage. Il vous demande de vous sanctifier. Ils étaient installés dans la vallée de Guérar. Ils n'étaient plus en Guérar, mais dans la vallée de Guérar. Et c'est probablement une étape que vous connaissez dans votre vie, n'est-ce pas? Vous êtes sorti du monde, mais il y a encore un certain contact avec le monde. C'est probablement normal dans le processus de la sanctification au début, mais après ça doit terminer. Il y a combien de gens qui flirtent avec le monde? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Quel type de soirée vous plaît? Ou est-ce que c'est les attitudes, les positions du monde qui vous attirent? Ou est-ce que vous avez un caractère qui est sanctifié, qui s'éloigne du monde progressivement? Il y a des gens qui viennent à Jésus avec un sale caractère, caractère du monde, caractère qu'ils avaient dans le monde avant, et le Seigneur les sanctifie. Parce qu'un sale caractère, c'est un sale esprit, c'est un mauvais esprit. Et donc la sanctification se fait ainsi. Et Isaac et Rebecca et ses serviteurs et servants se sont éloignés encore un peu. Et devinez ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils s'éloignent, il faut avoir de l'eau vive. Ils ont creusé des puits. Ils ont creusé un puits là où ils étaient. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand les gens s'éloignent, mais ils ont toujours la Bible avec eux. Alors il y a un régime qui vient s'installer et qui dit on va leur supprimer la Bible. Et ils déchirent la Bible, ils les emprisonnent. Mais ils sont encore plus près parce qu'ils ont la parole dans leur mémoire, dans leur cœur. Ils peuvent réciter des versets, ils peuvent réciter des chapitres entiers, des livres entiers, parce qu'ils ont creusé. Et ici, les serviteurs d'Isaac ont creusé un puits et ils l'ont appelé Essec. Alors évidemment, en français, ça fait drôle, hein? Mon puits, il est sec, d'accord? Ça fait drôle, mais effectivement, c'est une coïncidence. Parce que ce puits n'était pas sec du tout. Mais ils l'ont appelé Essec, qui veut dire discorde, contention. Parce que les Philistins, les gens de Guérard sont venus se déplacer pour dire « Cette eau est à nous ». Vous lirez ça donc au verset 20. Les bergers sont venus, ces bergers, ils n'étaient pas en ville, hein, ils étaient un peu à l'extérieur de Guérard, dans la vallée, et ils ont dit « Cette eau est à nous ». Et ils ont commencé à se disputer avec les serviteurs d'Isaac. Et voilà ce que le monde va dire aussi, ça c'est à moi. Tu me rends cela. Mais Jésus a pu dire, je crois que c'est à la fin, le dernier verset de Jean 14, ou peut-être de Jean 16, je ne suis pas sûr, mais un des deux chapitres. Il a dit, le diable n'a rien en moi. Il n'y a rien qu'il puisse réclamer dans ma vie. Et ici, le monde était venu à la rencontre d'Isaac et de Rebecca pour leur dire, ça c'est à nous. Et c'est pour ça qu'ils ont appuyé ce puits et sec. Discorde, contention. Et donc, au lieu de rester dans cette discorde, au lieu de dire non, ça c'est à nous, c'est nous qui avons creusé, c'est nous les propriétaires, ils sont partis. Plus loin, c'est le processus de la sanctification. Quand le diable, quand le monde vient réclamer des choses en vous, vous éloignez davantage, vous approchez de Christ davantage. Et c'est ce qu'en fait Isaac, il s'est éloigné. Et il a creusé un autre puits parce qu'il était encore à un autre endroit. Toujours en train de creuser des puits. Et celui-là, ils l'ont appelé Sitna. Parce que là aussi, il y a eu encore des accusations. Et Sitna, ça veut dire accusation. Et c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes peut-être au puits de Sitna ce matin. Parce que vous sentez dans votre cœur de l'accusation. Vous sentez dans votre esprit qu'il y a quelque chose du passé qui vous condamne. Il y a un doigt qui est pointé sur vous. Il y a des choses que vous avez faites qui vous troublent. Et il y a l'accusation. Il y a l'accusation parce que si vous avez voulu vivre une vie d'alliance avec Christ, mais il y a eu des choses plus fortes qui semblaient avoir pris le dessus, et vous êtes condamné à l'intérieur. Vous avez le sentiment d'être accusé. L'accusation est très forte, n'est-ce pas? Combien de gens vivent leur vie chrétienne avec un sentiment d'accusation? Mais vous lirez la description très belle qu'en fait l'apôtre Paul à la fin de Romains 7, de ceux qui se sentent accusés par la loi. N'est-ce pas? J'ai voulu faire le bien, mais c'est le mal qui en est sorti. Peut-être vous vous sentez accusé. Eh bien, le Seigneur ne va pas dire « Ah non, il faut faire les efforts », comme on dit quelquefois à ceux qui viennent en disant « On est accusé, on se sent accusé à cause de choses qui nous troublent la conscience ». Quelquefois on dit « Ah ben il faut dominer ça, il faut, tu n'as pas à écouter les accusations ». Mais quand on se sent accusé, il n'y a aucun discours qui puisse enlever cette force d'accusation. Et quelquefois la réponse de Dieu, elle est tellement différente. La réponse de Dieu, c'est de mettre le bras autour et de dire « Alors viens plus loin, éloigne-toi du monde, viens avec moi plus loin, sanctifie-toi ». La sanctification, c'est la mise à part. Et c'est ce qu'a fait Isaac et Rebecca. Ils sont allés encore plus loin. Ils sont allés plus loin. Et là, ils ont trouvé la tranquillité. Ils ont trouvé qu'ils n'étaient plus embêtés par Guérard. C'est ça l'évangile. C'est ça l'accomplissement de l'œuvre de Christ dans une vie. C'est qu'on ne reste pas dans cet état d'accusation. Mais on est amené plus loin, plus près de Christ, plus loin du monde. Jusqu'au moment où l'influence des paroles, l'influence de l'éducation, l'influence des choses que l'on a vécues, eh bien, ça commence à diminuer. Il n'y a plus d'emprise, n'est-ce pas, dans Romains 6. L'apôtre Paul pouvait dire « Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. » Parce que l'apôtre Paul avait connu cet éloignement du monde. Parce que l'apôtre Paul savait ce que c'était la sanctification, parce qu'il savait qu'être près de Jésus-Christ, ça voulait dire que le monde n'avait plus d'emprise. Mais combien de gens se disent chrétiens et sont toujours sous l'emprise de leur passé? C'est leur passé qui dicte leur vie actuelle. C'est le passé qui dicte leur comportement, qui dicte leur façon de penser, qui dicte leur façon de voir les choses. Qui dit « Je suis nul. De toute façon, tout ce que je fais, c'est nul. » Ça, c'est parce que vous êtes à Sitna. Ou parce que vous êtes dans le monde. Le Seigneur ne va pas vous dire « Oh non, tu n'es pas nul, tu es précieux à mes yeux. » Vous savez, c'est dans les milieux chrétiens, c'est gentil comme tout. C'est très beau, c'est très noble, il n'y a rien de mal en ça. Mais on va, quelqu'un qui dit « Tu es nul », on va l'entourer dans le bras. « Non, 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 tu n'es pas nul, tu es précieux. » Et ça fait du bien à la personne. Donc la prochaine fois qu'elle vous voit, elle dit « Je suis nul. » Comme ça, elle sait qu'elle va être dans vos bras. Bravo, vous avez renforcé le fait, vous avez récompensé le fait d'avoir dit « je suis nul ». Le Seigneur va vous prendre et va vous dire « alors viens avec moi plus loin. Tu vas creuser un puits plus loin ». Et ils ont creusé un puits plus loin, encore plus loin. Ils se sont éloignés, n'est-ce pas? Et ce puits, ils l'ont appelé Rehoboth. Ah, on a un nom qui est béni. Ça veut dire « l'Éternel m'a mis au large ». Il m'a donné du repos, il m'a mis au large. Ce matin, n'est-ce pas, vous pouvez rentrer dans le repos de Christ. Vous lisez sur le repos de Dieu dans Hébreux chapitre 4, un peu dans Hébreux 3 aussi. Il veut vous amener dans un endroit où les accusations ne sont plus là. Où vous êtes pardonné. Où vous, c'est pas qu'on doit, vous devez réciter 50 fois « Je déclare que je suis pardonné, que c'est du passé ». Je déclare des formules que le monde n'a plus d'influence sur ma vie, je suis libéré, n'est-ce pas? Et parce que vous devez dire ça parce que vous n'êtes pas libéré. Parce que le monde a encore des influences. Certes, vous êtes marié avec Christ, vous avez donné votre vie à Jésus. Mais il y a encore une emprise, un impact du passé. Vous avez cette culpabilité. Et j'aime beaucoup ce que Dieu, ce que Jésus fait. Il vous prend plus loin. Viens avec moi dans la sanctification. Approche-toi de moi. Creuse dans la parole. Regarde la parole. Tourne tes regards vers moi, comme prêchait Pascal la semaine dernière. Tourne tes yeux vers moi. Et tu verras que les liens, n'est-ce pas, vont tomber. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront. Les convoitises du monde pâliront, mais aussi l'influence que ce monde et ton passé peut avoir sur toi, ça tombera. C'est ça. Tu vas dire, mais l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel m'a donné du repos. L'Éternel m'a libéré. Rehoboth. C'est le puits qu'ils ont dégusté, n'est-ce pas ? L'eau duquel ils ont pu savourer. Et ensuite, c'était pas fini. Et c'est ça qui est merveilleux. C'était pas fini. Parce qu'il aurait pu dire, Rehoboth, Rehoboth, jusqu'à la mort, je resterai près de toi, puisque tu me donnes le repos. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? L'Éternel nous a mis au large pour la retraite. Eh bien non, ce n'était pas fini. Il va falloir creuser encore. Et Isaac et Rebecca ont décidé d'aller jusque Beersheba. Et là, il y a une autre alliance qui s'est faite. Et Christ voulait, Dieu voulait qu'ils arrivent à cette alliance. Et c'est une alliance avec le monde. C'est bizarre, n'est-ce pas ? C'est la première fois qu'on enseigne ça dans une église, qu'il faut faire alliance avec le monde. Et vous verrez quel type d'alliance. Ils sont allés à Beersheba. C'était là où habitait Abraham. C'est un endroit familier, c'est un endroit béni. C'est là où habite, où Dieu avait établi Abraham et sa famille. Et l'Éternel a parlé à Isaac à Beersheba, lui a dit des choses glorieuses que vous lirez dans Genèse 26. Mais je vous demande si vous avez entendu ce que Dieu vous a dit. Est-ce que vous pouvez dire, je suis arrivé à un endroit où Dieu m'a parlé personnellement, où Dieu m'a dit des choses sur ma vie, où j'ai entendu la voix de Dieu qui me faisait des promesses. Pas des promesses que je m'approprie par force, pas des promesses que je saisis en disant par la foi, je déclare que ces promesses sont pour moi, mais des promesses qu'il vous a faites à vous seul. Eh bien, à Beersheba, c'est là où Dieu s'est révélé à Isaac pour lui donner des promesses personnelles. Les mêmes promesses, au fond, qu'il avait faites à Abraham, son père. Mais comment Isaac pouvait-il se satisfaire de promesses qui avaient été faites à son père ? Vous avez besoin que Dieu vous parle à vous, même s'il a parlé à vos pères. Même si vous êtes issu de familles chrétiennes, vous avez besoin que Dieu vous parle personnellement. Est-ce que vous êtes allé jusque Beersheba, spirituellement ? Et c'est là où Dieu a parlé. Et à Beersheba, ils ont creusé des puits. Oh, ça s'appelait déjà du temps d'Abraham Beersheba. Donc c'est possible qu'Abraham avait aussi creusé là aussi. Mais ils étaient de là, et devinez ce qui arrive. Eh bien, c'est Abimélec qui arrive. Et j'imagine, mais c'est pas la Bible ça, mais j'imagine Rebecca qui dit à Isaac, tu vois, on aurait dû rester à Rehoboth. Rehoboth, on était au large. On n'aurait pas dû venir ici. Regarde qui arrive au loin. Et voilà, c'est le roi Abimélec qui vient. Alors, Sitna devait revenir en mémoire. Essek devait revenir en mémoire. La souillure dans l'eau devait revenir en mémoire. Mais cette fois-ci, le roi des Philistins est venu et il a dit, je voudrais qu'on fasse un serment. Un serment. Je voudrais qu'on fasse une alliance. Et l'alliance, c'est que tu nous touches pas et nous on te touche pas. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire un jour dans notre vie. Peut-être certaines des personnes qui vont prendre le baptême font cette alliance. Mais cette alliance, au fond, elle doit être mémorisée tous les jours. C'est cette alliance qui consiste à dire « Je ne veux plus du monde, plus d'impact, et je laisse le monde derrière moi. Je n'y touche pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai plus rien à voir, c'est terminé. » Et au fond, c'est ça vraiment la victoire, c'est ça la fin, c'est ça la sanctification telle que Dieu la veut. Mais cette alliance n'est pas possible, réellement, n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Même s'ils l'ont faite, on voit bien que les Philistins, après, du temps de David, du temps de Saül, ne se sont pas gênés d'attaquer Israël. Mais je voudrais terminer en donnant les termes de cette alliance, parce qu'on ne les trouve pas dans l'Ancien Testament, mais on les trouve dans le Nouveau Testament. Et vous n'êtes pas obligé de tourner, mais vous pouvez garder chez vous. Les termes de cette alliance se trouvent dans Galates, Galates chapitre 6. Est-ce que vous connaissez les termes de cette alliance? Galates 6, 14. Parce qu'au fond, spirituellement, l'apôtre Paul était allé et demeuré à Beersheba. Pas physiquement, pas géographiquement, mais dans sa vie spirituelle. Il était arrivé à Beersheba, qui veut dire le puits du serment, le puits de la promesse. Et dans Galates 6, 14, l'apôtre Paul dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je suis mort au monde et le monde est mort à moi. Le monde n'a plus de pouvoir sur ma vie et je n'ai plus de pouvoir sur le monde. Ça ne m'intéresse plus. On a fini. C'est terminé. Et cela est clairement possible, cette alliance, parce que le Isaac de la nouvelle alliance, Jésus-Christ, est mort pour son Église. Ce qu'Isaac ne faisait pas. Isaac a dit « Je ne voulais pas mourir à cause d'elle. » Mais Jésus-Christ a dit « Je veux mourir à cause d'elle. Je veux mourir pour elle, afin que les termes de l'alliance de Beersheba deviennent une réalité éternelle, que le monde puisse être crucifié comme nous pouvons être crucifiés au monde. » Et c'est là où effectivement ce que désirait Abimélec et ce que désirait Isaac se réalisent pleinement. C'est que le monde n'a plus de pouvoir sur vous et vous n'avez plus de pouvoir sur le monde. Vous laissez, ça ne vous concerne plus. Vous êtes étranger au monde. Voilà des étapes de la vie chrétienne. Le problème de chacun d'entre nous, c'est peut-être un problème de creuset. C'est peut-être un problème de l'endroit où on se trouve. On n'a pas bougé. Eh bien, ce matin, c'est l'appel de Dieu pour nos vies, de pouvoir avancer, de pouvoir s'éloigner du monde, de s'avancer vers Christ. Et retenez ça, de creuser pour avoir toujours de l'eau vive, toujours ce que le Seigneur a pour vous. Merci.